commence l'expérience de la Bible sur le terrain.
En quoi cette expérience se distingue-t-elle? Eh bien, d'abord, le programme, c'est pas moi qui l'ai fait, il s'est fait. Sur 20 ans de répétition, de changement de programme à cause des frontières qui bougent, des conditions qui changent, il y a une triple progression. Il y a d'abord la progression dans la découverte de la géographie du pays. Le programme est fait de telle sorte que quand on a terminé, on a parcouru du regard tout le pays, depuis la mer Rouge jusqu'au mont Hermon. Et de ce simple point de vue, ça serait déjà passionnant. Parce que je ne crois pas qu'il y ait dans le monde un pays où il y ait autant de contrastes sous si peu de kilomètres carrés. L'Hermon, qui a encore de la neige au mois de mai, au mois de juin, qui fait encore 3000 mètres, la mer Morte, le point le plus bas du globe, le climat méditerranéen à l'ouest, le climat désertique, etc., le Negev, la montagne d'Elat à la charnière du Negev et du Sinaï, enfin, une première progression dans la découverte de cette géographie de la Terre Sainte. Alors ensuite, l'histoire sainte, hein, mais l'histoire sainte expérimentée, comme notre histoire, comme pédagogie divine. C'est une vieille idée traditionnelle que l'histoire sainte est une pédagogie. Plutôt que de faire des théories, faire expérimenter aux gens que cette histoire, c'est leur histoire. Et je reprends une idée que les pères de l'Église ont formulée. Ils disent que l'histoire sainte, ce qu'ils appellent l'économie, reflète la théologie, c'est-à-dire le mystère même du Dieu trinitaire. Alors au nom du Père, dans le sud, dans les paysages exceptionnels du Sinaï, au nom du Fils, là, dans les paysages de Galilée, et puis le Saint-Esprit à Jérusalem, pas tout converge à Jérusalem. Et on fait l'expérience alors que tout se ramasse à Jérusalem, se concentre là, pour ensuite éclater aux dimensions universelles, se répandre à travers le temps et l'espace, de telle sorte que quand on quitte Jérusalem, on part de Jérusalem sans pouvoir la quitter, quoi. Continuer à marcher ensemble vers cette cité dont parle l'Épître aux Hébreux, dont Dieu est l'architecte et le fondateur, et on s'insère dans cette grande procession de croyants qui, depuis l'origine du monde, répondent à la parole de Dieu par la foi et se mettent en route vers la cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Et puis on inventorie toutes les façons que Dieu a de parler aux hommes dans l'humanité au cours des millénaires de l'histoire, à bien des reprises et bien des façons, autrefois nos pères, puis ensuite par le Verbe, et ces langages ne s'annulent pas les uns les autres. Le Christ a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », et on fait l'expérience que ces langages sont toujours étrangement actuels. Le langage que Dieu parle dans la nature, dans les éclairs et dans le tonnerre, dans la banalité de la vie quotidienne, par sa providence, quand on déchiffre les événements de l'existence. Ça, c'est la deuxième progression. Et puis la troisième progression, c'est la formation d'un groupe qui se laisse recréer par la parole de Dieu et par la vie liturgique, par les sacrements. Et alors les paysages les plus beaux sont moins beaux que ceux que nous sommes appelés à nous offrir mutuellement les uns les autres, si vraiment nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et alors, au fur et à mesure que l'expérience se déroule, les partages deviennent de plus en plus riches, et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de l'expérience en question. Et dans cette chapelle, après avoir parcouru tout le pays, on se retrouve, et à la fin, les gens échangent. On a l'impression de vivre un petit peu ce qu'on vivait dans la première communauté de Jérusalem, ou alors l'esprit descend sous forme de langue, et puis chacun est appelé à s'exprimer. Et on met en commun les fruits de cette expérience. Et très souvent, alors, les groupes continuent à garder entre eux des relations. Encore une fois, ils partent de Jérusalem, mais ils n'arrivent plus à la quitter, et ils continuent à cheminer. Je suis étonné de voir comment ils se réunissent, ils échangent leurs souvenirs, et comment aussi cette expérience qu'ils ont faite intensément pendant des vacances, en plein sens du mot, ils continuent à la vivre au rythme de la liturgie, au cours de l'année liturgique. Alors, et puis aussi un style de vie. Dans un de ses premiers discours après son élection, le pape Jean-Paul II a dit ceci: les chrétiens voudront être à l'avant-garde pour susciter des convictions et des modes de vie qui rompent de manière décisive avec une frénésie de consommation épuisante et sans joie. Alors, je voudrais mettre ça sur le patronage de la grande fête juive de Sukkot, la fête des tentes. On se désinstalle, et au fur et à mesure que la vie devient de plus en plus artificielle, on a besoin de valoriser les loisirs. Et il faudrait que les gens deviennent très exigeants sur la qualité de leurs loisirs. Et je me suis toujours demandé pourquoi la tradition chrétienne, qui a repris les deux grandes fêtes de pèlerinage, de Pâques et de Pentecôte, a laissé tomber la fête de Sukkot. On pourrait en faire la fête des vacances au plein sens du mot, nous désinstaller Et même vivre sans cahute, vivre sous les étoiles, ce serait des vacances au plein sens du mot.